dans le cadre de nos archives non rediffusées à ce jour et à la demande de certains de nos auditeurs, vous écoutez le libre journal Très tôt de la France courtoise dirigé par Yves Tarantique. Émission des 2 février et 2 mars 2010, rediffusée sur Radio Courtoisie vendredi 14 janvier 2022 de 18h à 21h. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Bonsoir chers auditeurs, Yves Tarantique au micro. Comme vous l'avez entendu de ci de là, cette année 2010 est une année commémorative de l'amitié France-Russie. Et ce soir, Anne Brassier et moi avons donc décidé de vous offrir une rediffusion de la pièce écrite et interprétée par Vladimir Volkov et sobrement intitulée « Yalta ». Vous allez donc entendre de la bouche même de Vladimir Volkov tout ce qui est utile à la compréhension du scénario. Quant à moi, j'aurai donc à écouter comme vous. Comme cette pièce dure environ 2 heures, elle est interprétée par Volkov lui-même et par deux de ses amis. 120 minutes, donc, disais-je, nous avons été contraints de la scinder en 2 parties. La seconde partie vous sera donc proposée dans 4 semaines, c'est-à-dire le mardi 2 mars à 21h30. Vous ne souffrirez peut-être pas de cette coupure, au contraire, dirais-je, car certains, les plus anciens d'entre vous en tout cas, se souviennent qu'autrefois on nous projetait des films en 2 époques, voire en 3. Et cela ne faisait qu'augmenter notre appétence pour connaître la suite du programme. La première partie est copieuse, je serai donc bref, et la seconde le sera un peu moins, ce qui permettra cette fois à Anne Brassier, qui a bien connu personnellement Vladimir Volkov, d'intervenir à son tour. Un mot, cependant, sur Yalta. C'est, comme le savent beaucoup d'entre vous, une station balnéaire sur les bords de la mer Noire, grosso modo en face de la Bulgarie ou de la Roumanie ou de l'estuaire du grand fleuve qui traverse l'Europe, où Staline, l'homme qui, paraît-il, faisait lever le soleil, avait une de ses somptueuses datchas. Je rajoute simplement qu'en fait, rien dans le contenu des accords entre Churchill, Roosevelt et Staline, les 3 protagonistes, ne laissait présager, directement ou indirectement, ce fameux partage du monde dont on sous-titre quelquefois le mot Yalta, ni même une répartition d'ailleurs des aires d'influence des 3 puissances participantes. Cette déclaration sur l'Europe libérée, loin d'abandonner l'Europe orientale à l'URSS, affirmait, conformément à la charte de l'Atlantique, le droit de tous les peuples à choisir leur mode de gouvernement et accordait indifféremment aux États satellites de l'Axe comme aux États libérés d'Europe l'aide de l'Occident et des 3 vainqueurs. La division de l'Europe, comme nous l'avons connue, n'est donc pas le résultat des accords directs de Yalta, mais de la guerre froide survenue quand Staline, dès 1945, avait, au mépris des accords de Yalta, commencé à imposer aux pays d'Europe orientale occupés par l'armée rouge des pouvoirs à structure socialiste, c'est-à-dire totalitaire. Le grand frère était aussi botté et casqué que l'envahisseur nazi d'hier. 2 mots sur Vladimir Volkov, c'est un écrivain français mais d'origine russe, auteur prolifique de romans historiques, ayant pour thème majeur la Russie et la guerre d'Algérie, et de beaucoup de romans d'espionnage. Il a été élevé dans le souvenir de la mère patrie perdue, mais dans la loyauté vis-à-vis de la terre d'accueil de sa famille, la France. Son grand-père fut un officier de l'armée impériale russe, commandant d'une garnison à Omsk, qui soutint activement l'amiral Kotchak en Sibérie. Études au lycée Claude Bernard, diplômé en lettres classiques, docteur en philosophie, romancier, essayiste, Vladimir Volkov est l'auteur de nombreux ouvrages marqués par les thèmes de la guerre froide, du renseignement, de la manipulation mais aussi de la métaphysique et de la spiritualité, car la foi orthodoxe était cardinale pour cet écrivain né à Paris. Il est aussi, notons-le au passage, un arrière-petit-neveu du compositeur russe Tchaïkovski. Études à la Sorbonne de Paris, à celle de Liège, professeur d'anglais à Amiens, engagé volontaire dans l'armée française durant 5 ans, de 57 à 62, donc durant la guerre d'Algérie, il a été officier de renseignement. Et évidemment, c'est là qu'il s'est rendu compte que la guerre ne se joue pas seulement sur le terrain, mais aussi dans les ambassades et dans la nuit du secret. Grand prix du roman de l'Académie française en 1982 avec le roman Le Montage, Vladimir Volkov informe des méthodes de la désinformation soviétique en Europe. Ce roman lui aurait été suggéré par Alexandre de Marange, que beaucoup d'entre nous ont connu, directeur du service de documentation et de contre-espionnage, SDECE, c'est-à-dire la piscine boulevard Mortier dans le 19e arrondissement, que j'ai un peu connu, j'en ai été le fournisseur très brièvement, et qui avait, je crois me souvenir, 2300 agents en exercice dans le monde. Voilà. J'arrête là parce que la partie de pièce qu'on va vous donner est très copieuse et nous nous reverrons tranquillement plus tard et notamment dans 4 semaines avec Anne Brassier pour parler davantage de Vladimir Volkov. Signalons quand même tout de même qu'il fit entrer le terme de désinformation dans le vocabulaire français et aussi dans les dictionnaires. C'est grâce à lui que nous savons ce que recouvre ce terme de désinformation. Et il l'a fait avec plusieurs bouquins, Petite histoire de la désinformation, Désinformation, flagrant délit, L'enlèvement et Manuel du politiquement correct. Voilà, j'arrête là. Je passe la parole cette fois à Vladimir Volkov et à ses amis. À bientôt.
Ici Vladimir Volkov. C'est une très grande joie pour moi d'avoir l'occasion de faire lire devant les auditeurs de Radio Courtoisie une pièce que j'ai écrite il y a une vingtaine d'années, qui a été créée à la fois en Belgique et en France en 1984, qui a été reprise l'année passée en France, à Paris, au Nouveau Théâtre Mouffetard, et qui s'appelle Yalta. C'est une pièce qui raconte la conférence qui a été tenue entre M. Staline, M. Roosevelt et M. Churchill à Yalta, en Russie, et qui a mis une espèce de point final à la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, bien sûr, il y a eu quelques incidents mineurs, comme des bombes atomiques jetées sur le Japon, comme 2 millions de prisonniers russes livrés à l'Union soviétique, comme la destruction de l'Empire colonial français, et quelques autres incidents. Mais l'essentiel était déjà contenu dans les accords qui ont été conclus entre Roosevelt, Churchill et Staline. Cette pièce a deux aspects. D'une part, elle est historique, c'est-à-dire que les trois acteurs en présence, vont échanger des répliques, des textes qui ont véritablement, pour 99% du texte, prononcé par les protagonistes réels. Et cela dit, bien entendu, il y a aussi une transposition politique, parce que en réalité, ni Staline, ni Churchill, ni Roosevelt ne se sont parlé en français. Ils ne se sont pas parlé directement l'un à l'autre. Ils n'ont pas échangé de plaisanteries directes, sauf par interprète. Et chacun avait emmené avec lui des interprètes, des spécialistes. Finalement, il n'y avait pas 3 personnes en présence, il y en avait 400. Mais ça, c'est la transposition poétique, la transposition du dramaturge. Il y a un autre point sur lequel il y a une transposition du dramaturge. Imiter, je m'en réclame, imiter des tragiques grecs, c'est que l'action, c'est très bien, mais cette action réagit sur le peuple, réagit sur le monde. Et de même qu'il y a un peuple à Thèbes pour commenter sur les actions d'Édipe, là, nous avons un peuple qui est l'humanité tout entière pour commenter sur les actions de ces 3 hommes qui ont fait ce qu'ils ont fait pour le meilleur ou pour le pire, mais certainement pas sans conséquences. Donc, vous allez entendre 4 voix. Vous allez entendre la voix, surtout et d'abord et essentiellement, la voix de la seule professionnelle parmi nous, parce que les autres sont des amateurs. Mais vous allez entendre dans le rôle du cœur, et en plus, elle aura la gentillesse de nous indiquer quelques jeux de scène pour que vous suiviez mieux ce qui se passe, vous allez entendre la voix de cette très très grande comédienne qui est Mireille Safa, qui d'ailleurs nous avait déjà prêté non seulement sa voix mais sa présence, puisqu'elle avait participé à la présentation de Yalta au Nouveau Théâtre Mouffetard l'année dernière. Mireille Safa est d'origine libanaise, elle joue beaucoup au Liban, elle joue beaucoup aussi en France. Elle a joué entre autres dans les Rodiades de Mallarmé, au même Nouveau Théâtre Mouffetard. Elle a participé à beaucoup de feuilletons de télévision. Et surtout, alors là ça me fait plaisir parce que pour une fois un rôle est bien distribué, elle a joué le rôle d'Aphrodite dans une autre pièce de Louis Lastour. Alors si seulement vous aviez la chance que j'ai, si vous pouviez voir Mireille Safa, vous comprendrez bien que le rôle d'Aphrodite était parfaitement distribué. Et nous sommes très reconnaissants, je suis très reconnaissant, mon titre personnel, à Mireille Safa, qui est donc une professionnelle, de nous faire ce cadeau extraordinaire, de venir nous supporter, nos autres amateurs, pendant quelques minutes. J'ai à ma droite le président Roosevelt, mais ce n'est pas le président Roosevelt, c'est...
Maurice D'Argent, je suis décorateur.
Maurice D'Argent a aussi été le décorateur de la pièce Yalta lorsqu'elle a été montée au Nouveau Théâtre Mouffetard, donc vous voyez que c'est une conspiration qui date déjà d'un certain temps. Et à ma gauche, j'ai Monsieur le Maréchal...
Staline, c'est Alain Pocard, je suis écrivain.
Alain Pocard est assez connu des auditeurs de Radio Courtoisie, et d'ailleurs je dois le remercier ici, parce que c'est lui qui est l'abeille laborieuse de la cheville ouvrière qui a permis la présentation de cette pièce aux auditeurs de Radio Courtoisie. La pièce va dururer à peu près 2 heures, nous ne savons pas exactement, parce que nous sommes des amateurs, nous ne pouvons pas dire cela à la seconde près. Elle est écrite en 2 parties, mais nous ne la séparerons pas en 2 parties, et nous allons démarrer dans quelques secondes. Mes chers amis, est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose ?
Oui, moi je voudrais juste dire que les autres filles qui faisaient le chœur, mes camarades Sabine Drabovitch, Céline Morna et Mirabel Kirkland, ne pouvaient, enfin c'est pour des raisons de place je pense, n'ont pas été convoquées, et je les remplace, j'espère que je vais les remplacer avantageusement, voilà.
Mais avantageusement, nous en sommes persuadés, ma chère.
On verra.
Eh bien, la pièce commence dans une salle sans décor, dans le noir absolu. Et n'en soyez pas surpris, les personnages parlent d'abord d'une façon parfaitement inexpressive, parce qu'ils expriment des choses qui ne sont pas psychologiques, mais qui sont éternelles, qui sont réelles, qu'ils ont réellement prononcées, et puis tout ça va s'animer.
Noir. un spot cru au centre sur Churchill assis, vêtu d'un pyjama à fleurs rouges et vertes.
Nous ne faiblirons pas. Nous n'échouerons pas. Nous irons jusqu'au bout. Nous défendrons notre île coûte que coûte. Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons dans les champs et dans les rues. Nous battrons dans les collines, nous ne nous, nous rendrons jamais. Si notre île était soumise et affamée, alors notre empire d'au-delà des mers poursuivrait la lutte jusqu'au jour où, avec l'aide de Dieu, le nouveau monde, armé de toute cette puissance, accourrait au secours de l'ancien.
Noir, un spot pâle côté jardin, sur Roosevelt dans son fauteuil à roulettes. Il est en complet, sans cravate, les appareils orthopédiques par-dessus le pantalon.
Dans l'avenir que nous nous efforçons d'assurer, nous espérons un monde fondé sur quatre libertés fondamentales. La première est la liberté d'expression, partout dans le monde. La deuxième est la liberté pour tout homme d'adorer Dieu comme il l'entend, partout dans le monde. La troisième consiste à ne souffrir d'aucun besoin, où que ce soit dans le monde. La quatrième est de ne redouter aucune agression de quiconque dans le monde. Et il ne s'agit point là de quelque âge d'or, rêvé mais inaccessible. Ce monde-là, nous le bâtirons, nous, les hommes de cette génération aussi.
Noir. Dans le noir, voix de Staline venant du côté court.
Nous proclamons à la face de tous nos ennemis que ni pour une minute, ni pour une seconde, ni même pour un millième de seconde, notre parti ne renoncera à l'objectif qu'il a inscrit sur ses bannières, la révolution sociale mondiale. Boukharine, fusillé.
Les peuples et les gouvernements savent que dans l'ensemble, alors c'est dans l'ensemble qu'il convient de juger de ces choses, l'influence britannique est bénéfique, saine, qu'elle profite au bien-être et au bonheur de l'humanité. Rule Britannia, Britannia, rule the waves.
Les communistes ne doivent pas renoncer à la terreur. Nous étions des terroristes avant la Révolution et nous le resterons toujours. Si vous prenez la Révolution au sérieux, vous devez aussi accepter la terreur. Sans terreur, rien ne fait. Et la faute n'en incombe pas à nous, mais à la bourgeoisie exécrée. Seule la terreur brisera la résistance de la bourgeoisie. Zinoviev. Il paraît que c'était très drôle de le voir se rouler aux pieds des fusilleurs et embrasser leurs bottes pour demander grâce. J'ai eu raison de me débarrasser de cette lavette.
Nos pays ne cherchent pas à s'agrandir, ni territorialement, ni d'aucune autre manière. Nos pays ne désirent aucune modification qui ne soit pas encore avec les désirs librement exprimés des populations intéressées. Nos pays respectent le droit de tous les peuples à choisir la forme de gouvernement sous laquelle ils veulent vivre, et ils souhaitent voir la souveraineté et l'indépendance rendues à ceux qui en ont été privés par la force.
La charte de l'Atlantique, oui, c'est beau, mais ce n'est pas une loi, c'est une étoile, tout au plus.
Je pèse 150 milliards de dollars de budget de guerre. Tous les jours, je grossis de 600 000 obus, de 2000 mitrailleuses, de 300 avions, de 80 pièces d'artillerie, de 50 chars et de 5 navires. Et tout ça ne m'empêche pas d'être un excellent garçon.
Je pèse un empire. Sur quoi le soleil, qui tourne pourtant de plus en plus vite, n'a pas encore réussi à se coucher. Je pèse une jeunesse qui est montée se battre et mourir dans le ciel. Je pèse un peuple qui ne met pas plus d'eau dans sa baignoire que ne l'autorise le pourtour économe qu'il y a tracé au crayon grand. Je pèse la grande charte. 7 siècles de liberté. Je pèse la vieille Europe. Et je n'oublie pas que c'est dans les vieilles marmites qu'on fait le meilleur potage. Je pèse mes cigares de 8 pouces, mon Pom 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 pom, mais mon...
Il fait lever de la victoire.
Je pèse mon roi.
Je pèse 40 millions de morts et une idée.
Nous luttons contre nos pères, l'ont fait avant nous, pour défendre la doctrine qui dit que tous les hommes sont égaux aux yeux de Dieu. Nos adversaires cherchent à détruire cette croyance pour créer un monde à leur image, un monde de tyrannie et de cruauté et de servitude. Aucun compromis ne peut mettre fin à un tel conflit. Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais de compromis entre le bien et le mal. Seule une victoire totale peut satisfaire les champions de la tolérance et de l'honnêteté et de la foi. Ces champions, c'est nous. Nous aurions peut-être des choses à nous dire, tous les trois.
Mais mi-jauge ! Il faut terminer la guerre, il faut organiser la paix. Le monde, demain, sera une table rase. À nous de le reconstruire sur des bases nouvelles et justes. Jamais trois nations, jamais trois hommes n'ont eu pareille occasion, ni pareille responsabilité. Si nous y faillons, l'histoire ne le pardonnera pas et elle aura bougrement raison. Où pourrions-nous nous rencontrer ?
Et pourquoi pas en Écosse ?
Je ne survolerai pas de territoire ennemi.
Alors, en Méditerranée ?
Bah évidemment, il y aurait des droits à franchir, mais on ferait déclarer la guerre à l'Allemagne par la Turquie, l'affaire serait dans le sec.
Alors, d'accord pour Athènes ?
Non.
Chypre ?
Non.
Bah, Salonique, le Pirée ?
Non.
Constantinople ?
Non.
Taormina, Rome ?
J'ai la guerre chez moi, je n'ai pas le temps de faire de tourisme.
L'oncle Jo n'a pas l'air très chaud. Et moi j'ai ma campagne électorale, c'est urgent.
Bah, le plus urgent, c'est de ne pas laisser l'armée rouge envahir l'Europe. Vous croyez que 180 divisions de tartares vont attendre le bon plaisir de vos électeurs ?
Non, mais une fois réélu, pour la quatrième fois, ce n'était jamais arrivé à personne, je serai infiniment plus libre pour négocier. En particulier, je n'aurai plus à me soucier de 7 millions d'électeurs d'origine polonaise.
Demandez à l'ours des steppes ce qu'il penserait de Jérusalem. Il y a d'excellents hôtels.
Que penserait mon ami le maréchal de Jérusalem ?
Mes médecins m'interdisent tout déplacement.
Le malotru, pour qui se prend-il ?
Ah, je suis plus malade que lui. Mais que voulez-vous ? Je ferai l'impossible pour m'entendre avec cet homme-là. Nous sympathisons, je l'aime bien, je crois qu'il m'aime bien nous aussi. Je suis prêt à aller en Russie s'il le faut, pour le rencontrer une fois de plus. Maréchal, que diriez-vous de Yalta ?
Je suis d'accord.
Yalta ? Yalta, en 10 ans, on n'aurait pas trouvé un endroit plus sinistre. C'est une station climatique, réputée pour le typhus et la vermine. Enfin ! Mieux vaut se voir bouffer de punaises que ne pas se voir du tout. Et bien sûr, nous pourrions d'abord nous rencontrer à Malte tous les deux pour aplanir nos difficultés civilisées d'anglo-saxons et présenter un front uni aux singes sanglants du Caucase.
Churchill va vers Roosevelt. Ils s'aperçoivent pour la première fois. Roosevelt rejette la tête en arrière d'un geste caractéristique, lève les bras, laisse un sourire enjôleur s'épanouir sur ses lèvres.
Winnie !
Monsieur le Président, je suis heureux de vous saluer sur une terre de la couronne.
Ah, vous y teniez, petit malin, à m'entretenir en catimini.
Oh, monsieur le Président, vous êtes le plus fidèle ami que la Grande-Bretagne ait jamais eu. Votre jeune république et mon vieux royaume ont intérêt à s'épauler, ils parlent le même langage.
Votre Bernard Shaw dit pourtant que la Grande-Bretagne et les États-Unis sont deux grandes nations séparées par une langue commune.
Oh, il ne s'agit pas de Bernard Shaw, qui est un bouffon. Notre langage commun, c'est la démocratie, ce qu'on appelle la démocratie.
Mais qu'est-ce qu'on appelle la démocratie ?
Le pire des régimes, excepté tous les autres. Le plus de liberté possible, le plus d'égalité souhaitable et pas un iota de plus. Et parlons peu, parlons bien.
Non, bien, je n'en doute pas. Peu m'étonnerait de vous, Winnie.
Savez-vous
quel jour est en train de poindre à l'horizon?
Ben, celui que nous appelons de toutes nos prières depuis 5 ans.
Le bon Dieu vous entend. Il vous entendra, c'est encore un gentleman, seulement notre époque, on ne peut plus être sûr de personne. Il paraît qu'on trouve, dans les meilleures familles, des olibrius qui ne se mettent même plus en smoking pour dîner. Alors, le bon Dieu...
Au fait, Winston.
Ah, vous voulez des faits? Ben, vous aurez des faits. Vous vous rappelez que j'ai toujours été partisan de débarquer dans les Balkans plutôt qu'en Italie.
Bien sûr, vous vous inquiétiez pour la route des Indes.
Et que lorsque nous avons décidé d'ouvrir un nouveau front, je méditais toujours pour les Balkans. Et que c'est vous qui avez imposé la Normandie.
Ben c'est que la route des Indes...
Et moi, que c'est vous qui vous êtes opposé à la prise de Rhodes et à la conquête de la mer Égée.
Je vous répète que la route des Indes...
Et que je vous ai supplié de ne pas débarquer en Provence, mais de mettre les bouchées doubles en Italie, foncer sur Trieste et par le col de Ljubljana des bouchées dans le bassin du Danube, le beau Danube bleu. C'est pas la route des Indes que je sache. Si vous m'aviez écouté, monsieur le président, c'est nous qui libérions Prague, Vienne, Budapest, c'est nous qui prenions Berlin.
Eisenhower me disait qu'il y avait des nécessités stratégiques.
Ouais, en fait, de nécessités stratégiques, nous venons de ramasser une pile dans les Ardennes, nous avons à peine redressé la situation, à peine commencé à rafraîchir nos radiateurs avec l'eau du Rhin, et les Russes, mais regardez-les, ils sont en Roumanie, ils sont en Bulgarie, ils ont déquillé la Finlande, ils ont envahi la Pologne.
Ah, vous voulez dire libérer, Winston?
Oh, vous savez très bien qu'ils traitent les pays libérés comme des terres conquises. Ils sont en train de mâcher la Tchécoslovaquie et de digérer la Hongrie et l'Allemagne, donc. Rokossovski a isolé la Prusse orientale, Konev a établi les têtes de pont de ce côté-ci de l'Oder, Zhukov est à 150 km de Berlin. Pour l'amour du ciel, occupons au moins autant d'Autriche que nous le pourrons.
Mais pourquoi faire?
Oh, mais de par tous les diables, pour respirer un peu après la guerre. Moins nous donnerons d'Europe aux Cosaques rouges, mieux cela vaudra. Nous serons évidemment obligés de leur concéder une sphère d'influence. Essayons de faire en sorte qu'elle ne déborde pas sur la nôtre.
Vous en êtes encore aux sphères d'influence? Quelle vieille culotte de peau vous êtes, mon pauvre Winston. Et comme vous comprenez mal le monde nouveau qui s'ouvre à nous. Vos amis Metternich et Machiavel sont morts et enterrés. Et nous, nous avons une mission à remplir. Très simple. Rendre la guerre à jamais impossible.
Jamais, monsieur le président. C'est long. C'est très long. Si nous arrachons 50 ans de paix à l'histoire, ce sera déjà pas si mal.
Moi, j'ai du plus vaste dessein que vous. Votre vieille politique étroitement européenne me fait penser à un orchestre où les cordes joueraient Suwannee River pendant que les cuivres sonneraient Yankee Doodle. La politique, à partir de maintenant, se doit d'être symphonique. Le monde est un orchestre à qui il faut un Toscanini. Remarquez que, personnellement, je ne vous en veux pas de raisonner comme vous le faites. Vous avez 400 ans d'avidité territoriale dans le sang. Et vous êtes incapable de comprendre qu'on se refuse un lopin de terre qu'on pourrait empaumer impunément. Une nouvelle époque vient de commencer, Winston. Il faudra vous y faire. Moi, je suis bien décidé à ce que la conférence de Yalta marque la fin de votre petite cuisine, de vos trucs et de vos trocs, de votre doctrine éculée de l'équilibre des puissances. Voilà des siècles que vous pratiquez ces expédients et qu'ils ne donnent rien. Le temps est venu de flanquer un grand coup de balai dans toutes ces toiles d'araignées que vous vous tissez les uns aux autres. Je pense qu'avec le maréchal, qui représente lui aussi un pays neuf et propre, je réussirai ce que j'ai en vue.
Et c'est quoi ce que vous avez en vue?
L'ouverture sur l'humanité, tout simplement.
Bras dessus, avec l'ours communiste.
Mais Staline n'est pas plus communiste que vous ou moi. C'est un nationaliste russe, oui, mais lui au moins n'est pas impérialiste.
Mais savez-vous qu'à l'époque, pas circuler, où Staline et Hitler étaient copains comme cochons? L'Union soviétique s'est taillé une escalope de Finlande à un contre-filet de Pologne. Savez-vous ce qu'elle a fait de la Lituanie ? Une bouchée. De la Lettonie, une bouchée. De l'Estonie, une bouchée. De la Bessarabie,
une bouchée aussi, je suppose.
Ouah, une demi-bouchée. Vous parlez d'ouverture sur l'humanité, vous ne croyez pas si bien dire. Une gueule ouverte, grande ouverte, béante.
Dans les faits, vous avez peut-être raison, mais soyons sérieux. Que pèse une Estonie quelconque quand il s'agit de la paix universelle ? L'ennui avec vous, Winston, c'est que vous êtes un idéaliste. Tandis que Staline et moi, nous sommes une paire de vieux réalistes faits pour nous comprendre. J'ai à ce sujet une intuition. Et mes intuitions sur les hommes ne m'ont encore jamais trompé. Je sais que si je lui donne tout ce que je peux, et que je ne lui demande pas ça en retour, alors, noblesse oblige. Il n'annexera rien du tout et travaillera avec moi à l'édification d'un monde meilleur.
Tchouin, tchouin. L'idéalisme, monsieur le président, l'idéaliste, c'est vous. Et tout tire-bouchonné encore par votre guerre d'indépendance. Noblesse oblige, excusez du peu. Mais de quelle noblesse parlez-vous ? Celle du séminariste renégat ou celle du terroriste indique ? L'idéalisme est indispensable, je vous l'accorde, l'humanité ne peut pas progresser si elle s'en prive totalement. Vous m'accorderez aussi qu'il n'en est pas à sa forme la plus sublime quand il s'exerce aux dépens d'autrui, le haragoût que nous allons faire cuire dans votre yalta de malheur. Des millions d'êtres humains le dégusteront pendant des générations.
Ben je le sais bien. C'est pourquoi je compte insister pour que nous mettions sur pied le plus rapidement possible une organisation des Nations Unies.
Et le plus rapidement possible, ça fait combien de temps, ça ?
Ah ben moi, je ne pourrais pas rester à Yalta plus de 4 ou 5 jours.
Mais le bon Dieu lui-même en a mis 6 pour créer le monde ! Ah, je vois bien, monsieur le président, que vous allez tout bâcler. Ne savez-vous pas qu'à la chaîne de l'histoire, on ne peut travailler que maillon à maillon ?
Depuis quelques instants, Staline est entré côté cour. On le distingue mal près de son spot rouge qui s'est rallumé.
Qu'est-ce qu'ils sont en train de comploter à Malte, ces deux guignols-là ? J'ai dit Yalta, pas Malta !
Je crois que nous ferions bien d'y aller. L'oncle Joe s'impatiente.
Le monde est une bête blessée. En route, monsieur le président.
Je m'appelle Yalta. Je m'appelle aussi Espérance. Je suis une province harmonieuse, suspendue entre terre et mer, noircie de carcasses de chars, de cheminées sans maison, les murs, sans toit ni plancher, étiquetés de papier peint. Je suis pleine de jolis palmiers importés, mais je suis vide d'hommes. Par centaines de milliers, en camions british ou à Merloc, mes doux tatars enturbanés roulent vers la Sibérie. Ils avaient gravement mécontenté le père des peuples. Comme entre deux jeunes pins, par force ployés l'un vers l'autre, et qui, se relevant, arracheront des tronçons de membres à mon tronc, je suis écartelé entre une guerre encore aboyante et une paix qui va se mettre à hurler en grinçant des dents. Tout pour moi est encore possible, et tout déjà périlleux. Ses parents en hier exsangues d'un demain apoplectique, je suis la vitre lucide, mais déjà zébrée, craquelée par les graffitis du destin. Et pourtant, telle qu'elle, j'espère. Les trois empereurs du monde ne peuvent pas être impuissants. Ils sont rassemblés autour de moi, au-dessus de moi, comme trois chirurgiens en consultation occulte sous leur masque, comme trois mages qui vont lire l'avenir dans le code de mes entrailles. Sous leurs yeux rétractiles, sous leurs doigts de caoutchouc tâtonnant, je gis, entre bâillés, et j'attends qu'ils me ressuscitent. Je ne peux pas avoir perdu tant de sang pour rien. Ils ne peuvent pas être si savants, si habiles, pour rien. Depuis que la fronde de Dieu a lancé la terre dans l'espace, jamais lieu n'a contenu tant d'hommes résumés en trois hommes, ces trois-là. ces trois visiteurs qui contiennent les ressorts comprimés du monde, ces trois arcs-boutants affrontés qui supportent la voûte de l'histoire. De leur rigueur, il faut bien que naisse la liberté. De leur méditation, il faut bien que naisse le salut. Sinon, sur l'autel de mon corps, sur le miroir de mon corps qu'ils embrument, chaque fois que clapote leur bouche gourmande de vieillards, qu'auront-ils chuchoté entre eux, psalmodié entre eux, qu'une messe noire?
Quel temps radieux! À Washington, il paraît qu'il gèle.
À Londres, il pleut, comme d'habitude.
Je n'en attendais pas moins de l'hospitalité soviétique.
Voulez-vous un cigare, maréchal?
Le président, peut-être, acceptera de présider la séance.
Bien, volontiers, volontiers. D'ailleurs, vous le savez avec moi, ce sera la bonne franquette. Vous connaissez mon style. Le protocole, on s'assoit dessus. L'ordre du jour, on se le met où je pense. Entre bons garçons, on peut toujours s'entendre. Pour moi, nous sommes ici en famille, une vraie famille. Voilà ce que nous sommes. Moi, il ne me manque que Fala. Oui, c'est mon chien. Et puis, la bourgeoise, bien sûr, bah, celle-là, elle se rappelle 6 fois par jour à mon souvenir, par télégramme.
Je vous prie.
Eh bien, messieurs, ou devrais-je dire camarades, nous voici réunis face aux ruines encore fumantes d'un passé d'erreurs et d'injustices et d'abus, résolus à en reconstruire un fondé sur la sagesse et l'équité et la démocratie. C'est pourquoi...
Un instant, comprenons-nous bien, personne ici ne conteste plus la légitimité du régime soviétique.
Nous avons décidé de laisser les morts enterrer les morts.
Personne ne conteste à la Russie les liens qui l'unissent à l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie.
Les grands pays ont grand appétit, c'est biologique.
La Roumanie, qui est devenue notre alliée...
reste comme convenu sous votre influence à 90%. À 10% sous la nôtre.
La Bulgarie, à qui nous avons déclaré la guerre...
La Bulgarie, c'est le même tabac. Mais vous nous laissez 90% d'influence en Grèce.
Je suis d'accord. La Yougoslavie, c'est toujours 50-50.
Et le président et moi, nous n'avons qu'une parole, une pour deux.
À condition, bien sûr, que vous abandonniez les maquis royalistes et que vous aidiez le seul Tito de tous vos moyens.
C'est mon fils Randolph qui dirige l'opération. 50-50 aussi pour la Hongrie.
Vous pouvez y compter.
Vous êtes bons tous les deux. On croirait à vous entendre que c'est aux libérateurs d'imposer leur volonté aux libérés. Nous avons pourtant tous signé la charte de l'Atlantique. Enfin, je suppose qu'il faut ce qu'il faut. Nous sommes tous de bons démocrates et nous ferons toujours mieux que les nazis. Savez-vous, maréchal, que moi, qui suis un grand parieur, j'ai parié que vos armées prendraient Berlin avant que les miennes ne prennent Manille.
Je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé.
Bon, premier sujet à débrouiller, l'Allemagne.
Bah, reddition sans condition.
Je suis d'accord.
Sans condition.
Moi, je suis devenu encore plus anti-Bosch depuis que j'ai vu les ravages qu'ils ont fait dans votre pays, maréchal. Un pays qui devait être superbe, ses maisons éventrées, ses squelettes d'arbres tout noirs. Je n'avais jamais rien vu d'aussi horrible.
Ben oui, vous n'aviez jamais vu de guerre.
Ben, je ne tiens pas à en voir une autre. La nation allemande s'est mal conduite. Elle doit être châtiée.
Oui, mise hors d'état de nuire.
Et pour cela, démembrée.
Démembrée.
Le peuple russe ne peut pas être condamné à faire la guerre à l'Allemagne une fois par génération.
Ben, vous avez raison. D'ailleurs, c'est un fait que la carte de l'Europe a été établie par les Européens en dépit du bon sens. Hein, moi, je serais assez partisan de rectifier les erreurs de l'histoire. Par exemple, on créerait une république indépendante de Wallonie, où on mettrait le Luxembourg, l'Alsace-Lorraine, un zeste de France et une rondelle de Belgique.
Monsieur le Président, il ne s'agit pas de ça. L'Allemagne devrait être décomposée en une fédération de nations indépendantes. La Saxe, la Bavière, la Prusse...
L'Allemagne sera démembrée.
Ah, je vois bien, mais encore faut-il savoir comment. C'est une question qui doit être étudiée.
C'est une question qui doit être résolue.
Et vous ne pouvez pas régler le sort de 80 millions d'hommes en 80 minutes.
Je peux.
De toute manière,
voulu une pâtir d'avance aux Allemands que leur unité ne sera pas respectée, qu'ils se rendent d'abord, ensuite ils verront bien ce qui leur arrivera.
Je ne suis pas d'accord.
Mais ils savent que l'Allemagne sera divisée, ils refuseront de se rendre.
Vous ne comprenez pas que le temps des subtilités est passé. S'ils savent que l'Allemagne sera démembrée, ils sauront aussi qu'ils n'ont plus une chance.
Ah ben on pourrait dire décentralisation au lieu de démembrement, non ?
Il faut dire démembrement.
Ben supposons qu'Hitler soit renversé et qu'un gouvernement respectable ouvre des négociations avec nous.
L'Allemagne doit être démembrée quelles que soient les circonstances de sa reddition. Vous autres, vous luttez contre les nazis. Nous, nous combattons l'Allemand. Pour la deuxième fois en 25 ans.
Bon, va pour démembrer.
Va démembrons. Va démembrons. Ça leur apprendra à vivre.
Démembrer ne suffit pas. Il faut aussi repousser la frontière polonaise de l'Allemagne de manière à élargir la Pologne vers l'ouest.
Parce que naturellement, vous comptez la rétrécir de l'autre côté.
Nous discuterons cela le moment venu.
Après tout, je veux bien. Qu'on fasse glisser la Pologne d'est en ouest comme une crêpe sur une poêle. Il n'y a que des plaines dans cette région, cela ne doit guère poser de problème. Tant qu'on n'exagère pas. Vous pensez comme nous que d'une manière ou d'une autre, l'Allemagne doit renaître de ses cendres.
L'Allemagne vivra, d'une manière ou d'une autre.
Alors, il faut seulement se garder de gaver l'oie polonaise avec trop de graisse germanique.
La Pologne s'étendra jusqu'à la ligne Oder-Neisse. Elle englobera la Silésie avec Breslau, une partie de la Poméranie avec Stettin et la Prusse orientale. Pas de carte, merci. Je connais le terrain. Königsberg deviendra une ville russe.
Ah, moi, je suis pas dupé, maréchal. Et les Silésiens, les Poméraniens, les Prussiens orientaux, qu'est-ce que vous en faites?
Il n'y en a plus. Nous en avons déjà tué 5 ou 6 millions.
Ah bah plus vous en aurez tué, plus je serai content.
Les autres se sont enfuis à notre approche. Le pays est vide.
N'exagérons pas, il doit bien rester là quelques 8 millions de marchands de saucisses. Déporter toute une population, bah, je vais pas.
Pourquoi? C'est une question de moyens de transport et d'organisation. Vous avez les moyens de transport et j'ai l'organisation.
L'opinion anglaise...
Ne nous inquiète pas beaucoup. Monsieur le Premier ministre, nous avons en Russie des fleuves excessivement larges et l'armée rouge n'a jamais éprouvé de grandes difficultés à les traverser.
Voulez-vous préciser votre pensée?
Là, ne sortons pas du sujet. Il est sans doute possible de déporter des populations par mesure punitive, mais il faudrait tout de même conserver un semblant de justice et de légalité... Et de démocratie.
Cela est facile. Ces territoires appartenaient déjà à la Pologne.
Bah quand ?
Il y a longtemps.
À ce compte-là, l'Angleterre pourrait prétendre avaler les États-Unis.
Le morceau est trop gros, il s'étranglerait !
Bah d'abord, où est-elle cette Neisse ? Oh, mais il n'est pas si loin à l'ouest que je croyais.
Monsieur le Président, nous parlons de la Neisse occidentale, ici.
Ah oui, je vois. Évidemment, c'est plus loin. Cela dit, les Polonais se battent pour les alliés. Je suppose qu'il est équitable de les dédommager sur le dos des vaincus. Que pensez-vous de la ligne Oder-Neisse, Winston?
J'en pense que les chars du maréchal l'ont déjà franchi, rien de plus.
Staline allume sa pipe.
Il y a aussi la question des réparations. Les Allemands ont détruit la richesse économique d'un certain nombre de pays, dont le mien. Ils doivent payer.
Ben c'est ce que je dis. L'Allemagne doit être ramenée à une économie essentiellement agricole et pastorale. Et il faut interdire aux Allemands d'apprendre à piloter des avions.
Ce n'est pas tout à fait cela. L'Allemagne a annihilé notre industrie. Il nous faut une industrie, nous prendrons l'allemande. Nous dépouillerons l'Allemagne de ses usines, de ses machines lourdes, de ses machines-outils, de son matériel roulant. J'entends pour tout ce qui touche au fer, à l'acier, à l'électricité et aux industries chimiques.
Dépouiller ? Que veut dire dépouiller ?
Dépouiller, avec des grues et des hommes, qui démontent, transportent et remontent ailleurs. Les mêmes machines, les mêmes usines. Ce dépouillement viendra après le démembrement et sera réalisé en 2 ans. Après, nous recueillerons les réparations proprement dites, sur 10 ans. Ensuite, il n'y aura plus qu'à internationaliser les entreprises ayant travaillé pour la guerre. Toute fabrication de munitions et de pétrole synthétique sera évidemment interdite.
Et nous pourrions, de notre côté, trouver quelques procédés juridiques pour nationaliser les biens allemands aux États-Unis. Nous ne demanderions pas d'autres réparations, notre territoire n'ayant pas souffert de la guerre.
Et attention ! L'Union soviétique n'est pas la seule à avoir souffert. La Belgique,
La Hollande, la Norvège aussi ont été passablement détripés.
Nous ne nous opposons pas à ce que ces pays fassent valoir leurs droits. En fait, nous sommes généreux. Nous pensons que l'Allemagne doit payer en tout 20 milliards de dollars de réparations, dont 10 à la Russie.
Mais comment les autres 10 milliards seraient-ils répartis ?
Il me semble que notre ami oublie le vieux principe communiste. Ni annexion, ni indemnité.
Je vire de plus en plus à droite tous les jours. Les 10 milliards seront répartis en proportion de l'effort de guerre de chaque pays.
Écoutez, j'en reconnais que l'Allemagne a quelque peu écrémé l'Europe et qu'il faut lui faire rendre gorge. Mais votre système de réparation, de répartition... soyons socialistes, que diable ! À chacun selon ses besoins, à chacun selon ses capacités.
Ou alors il faudrait proportionner les réparations aux torts causés.
Je ne suis pas d'accord, à chacun selon ses mérites.
Maréchal, le monde est une bête blessée. Nous savons, mais ne croyez-vous pas qu'il nous appartient de soigner ses blessures au lieu de les envenimer ? L'Allemagne, c'est Hitler. Soit je suis le seul ici à pouvoir dire que j'ai combattu Hitler depuis la couvaison, depuis l'œuf, depuis le germe. Mais enfin, l'Allemagne, c'est aussi Bach, Beethoven, Luther, Schiller, Goethe...
Ils sont morts !
Oui, ils sont morts ! Mais tout le sens de notre civilisation, c'est qu'on peut être mort et vivant à la fois. Votre Marx, aussi, après tout, il est mort. Juif, mais mort. Vous ne pouvez pas faire crever de faim 80 millions d'hommes et leur dire c'est bien fait pour vous.
Si vous êtes contre les réparations...
Non, ce n'est pas une chose dont vous puissiez me soupçonner.
Pourquoi ?
Je vous ai livré 16 millions de tonnes de matériel de guerre, mon bon. 16 millions de tonnes !
Vous imaginez-vous que ce sont vos wagons et vos fourgons qui ont renversé la marée à Stalingrad ? Ce sont les soldats russes avec leurs poitrines. Tout à l'heure, vous avez été frappé par le spectacle de quelques arbres brûlés, de quelques maisons détruites. Savez-vous que mon pays tout entier est dans cet état, que ce palais n'est debout que parce qu'un général allemand croyait en avoir fait sa résidence définitive et qu'en fuyant, il a emporté les meubles ? Savez-vous que cette guerre nous a coûté 20 millions de morts, plus d'un russe sur 10 en comptant les enfants, les vieux et naturellement les femmes ? Les Allemands sont des sauvages. Ils haïssent d'une haine sadique tout ce qui est création humaine. Vous ne comprendrez jamais ce que mon peuple a enduré. Et vous deux, quel effort de guerre avez-vous fourni ? Combien de fois vous ai-je supplié d'ouvrir un deuxième front ? Et combien de temps vous a-t-il fallu pour vous y résoudre ? Vous les épargnez tant que vous pouviez, vos petits Tommy, vos petits Johnny bien propres. En attendant, les Ivan prenaient les nids de mitrailleuses à la baïonnette. Il m'en mourait 10 000 par jour, messieurs mes bons alliés. Cette guerre, je l'ai portée à bout de bras pendant 2 ans. Et maintenant encore, vous me donnez à peine plus qu'un coup de main pour la terminer. C'est ma guerre. Ne vous faites pas d'illusions là-dessus. Quand il n'y a pas si longtemps, c'est vous qui m'avez demandé de vous secourir. Combien de divisions ai-je fait donner ? 160. Vous oubliez peut-être qu'à l'heure qu'il est, j'ai encore 70% de l'armée allemande contre moi, plus des 2/3 contre moi tout seul. J'ai 4 fois plus de pertes que vous deux réunis, mais j'en inflige aussi des pertes. Pendant que vous accrochez péniblement 700 000 Allemands, j'en mets 900 000 au tapis, à moi tout seul.
Il est exact de dire... C'est l'armée rouge qui a arraché le plus de tripes à l'armée allemande.
Maréchal, moi je suis d'accord. 20 milliards de dollars, dont 10 pour vous. Les autres sinistrés se partageront le reste. Ne vous étonnez pas des réticences du Premier ministre. Vous savez comment sont les Anglais. Ils veulent à la fois manger leur gâteau et le garder intact. Nous sommes plus réalistes. Je préférerais cependant que la somme de 20 milliards ne soit pas annoncée officiellement. Les Américains risqueraient de ne pas comprendre qu'il s'agit de paiements en nature et de s'affoler devant l'ampleur de la somme. Après l'autre guerre, les Alliés ont eu quelque mal, n'est-ce pas, à recouvrer leurs dettes.
Oui, c'est ça. Nous acceptons le principe des réparations, mais nous étudierons le chiffre plus tard.
Le chiffre est 20 milliards.
Ah, 20 milliards, 20 milliards, ne pouvez-vous pas vous mettre dans la tête que si on veut faire traîner une carriole par un canasson, le canasson, il venait du foin. Donc on n'ira pas bien loin.
Il faut surtout prendre garde à ce que le canasson ne se remette pas à ruer dans les brancards.
Non, 20 milliards, adjugé.
Je proteste.
Eh bien, mon bon, vous allez vous trouver dans un splendide isolement tout à fait conforme à votre tradition insulaire.
Nous avons une anecdote très drôle. Un soldat reçoit la mission de convoyer 100 prisonniers allemands jusqu'à un camp de triage. Quand il arrive, il n'a plus qu'un seul prisonnier avec lui. On lui demande « Où sont passés les 99 autres ?» Il répond « J'avais juré de tuer tous les Allemands jusqu'au dernier. Voici le dernier
!» À ce propos, il faut prendre une décision concernant les criminels de guerre.
Hein. Établissons une liste des responsables et jugeons-les. Nous sommes les vainqueurs, il nous sera facile de faire condamner qui nous voudrons.
Si vous voulez, mais c'est encore une subtilité. Il suffit de rassembler 50 000 officiers allemands et de les passer par les armes.
Un peu expéditif, non?
Mais ce que j'entends proposer, Richy, n'est pas autre chose qu'un crime de guerre aussi atroce que celui de l'ennemi. Je préférerais qu'on me fusille, moi, là, tout de suite, dans ce jardin, plutôt de souscrire à une pareille ignominie.
Calmez-vous, Winston, calmez-vous. Je propose un compromis. N'en fusillons pas 50 000. 49 500 seulement.
Churchill s'éloigne.
Vous voyez comme ils sont, les John Bull. Ils croient que la guerre, c'est du criquet. Allons, rattrapez-le, maréchal. Moi, je ne peux pas bouger de ce maudit fauteuil. Dites-lui que nous avons plaisanté. Nous ne les fusillerons pas. Nous les dénazifierons. Cela reviendra à peu près au même et ça fera mieux dans les livres d'histoire.
Revenez, monsieur le Premier ministre. Nous ne leur ferons pas plus de mal qu'il ne faudra à vos chers Allemands.
Ah, je l'ai dit, le monde est une bête blessée. Ma devise a toujours été dans la guerre, résolution. Dans la défaite, défi. Dans la paix, bonne volonté. Dans la victoire, magnanimité. Ce n'est pas que la victoire ne doit pas être mise à profit, bien sûr. Tout est une question de dose. Maintenant, il faut régler le statut de la France. Combien de temps l'armée américaine pourra-t-elle participer à l'occupation de l'Allemagne?
Je ferai d'obtenir 2 ans du Congrès.
Pas davantage.
C'est un maximum.
Dans ce cas, il est d'autant plus impératif de donner à la France une zone d'occupation, une voie dans l'organisation de l'Allemagne.
Pour quelle raison ferions-nous cela?
À moins que ce ne soit par charité chrétienne, je...
Non, mais là, la France est un grand pays européen. Elle est celui qui connaît le mieux l'Allemagne. Et pendant la guerre, il a souffert.
La France a refusé de se battre. En 40, elle a capitulé. De 40 à 43, elle a collaboré. En 44, vous l'avez libérée. Elle n'a même pas mobilisé en ce moment. Combien de divisions a-t-elle sur le front? 9. Même la Pologne en a 10, sans compter les Polonais qui se battent de votre côté.
Il faut reconnaître que la France a baissé pavillon et pantalon en même temps.
Et la résistance.
Qui a tué plus de Français que d'Allemands?
Monsieur le Premier ministre, si la France avait accepté de se battre, mon pays et le vôtre auraient eu à se battre d'autant moins. Je ne comprends pas que vous ne lui en gardiez pas plus de rancune.
Si j'ai bonne mémoire, maréchal, la France n'est pas le seul pays à avoir connu des déboires au début de la guerre. Au moins, ses prisonniers à elle n'ont-elles jamais porté les armes en profit de l'Allemand? Or, moi, je crois me rappeler que des divisions soviétiques tout entières sont passées avec armes et bagages du côté de l'ennemi.
Il y a des traîtres dans tous les pays.
Oui, 2 millions qui trahissent, il doit y avoir une raison.
Ce sont là des affaires intérieures que nous réglerons entre Russes. Nous trois, nous formons un groupe restreint, les 3 grands. Avec la Chine, cela fera 4. Cela suffit. Si vous y introduisez la France, pourquoi pas la Belgique ou l'Albanie?
Ah, maréchal, je vous prends en flagrant délit de snobisme. Vous voulez que notre club soit vraiment très select. Pour y entrer, il faudrait avoir...
5 millions d'hommes sous les armes.
3 suffiront, c'est tout ce que j'ai. Mais vous devriez comprendre qu'il ne s'agit ni d'Albanie, de club. Il s'agit de reconnaître que la France existe. Qu'elle est le seul pays de quelque importance qui sépare la Grande-Bretagne de l'Allemagne et que par conséquent... Nous avons intérêt à ce qu'elle soit puissante.
Vous voulez dire que vous avez besoin de la France comme d'un rempart, comme nous, nous avons besoin de la Pologne.
À peu de choses près.
Je ne m'oppose pas, dans ce cas, à ce que vous lui donniez une zone d'occupation. que vous découperez naturellement dans les deux vôtres.
Ben d'accord, je tourne lui cette tasse. Mais pas question de lui donner une voix dans l'organisation. Vous imaginez ? Voir De Gaulle tous les jours ? Cette grande coquette chatouilleuse ? Ah, il m'a expliqué qu'il était Clémenceau et Jeanne d'Arc en une seule personne. Je me demande pourquoi vous ne l'avez pas brûlé lui aussi. Pourtant, à Londres, vous aviez l'occasion. Et je suis persuadé que Jeanne d'Arc était moins bêcheuse que lui.
Le fait est que le général De Gaulle est un homme intraitable.
Intraitable ? Vous voulez dire puant ?
Oui, chaque homme, dit-on, doit porter sa croix. Pour moi, ça aurait été la croix de Lorraine. Mais je ne peux me retenir d'une certaine admiration devant les mendiants qui exigent. Et si nous ne donnons pas de voix à la France, comment pourra-t-elle administrer sa zone ?
Sous votre surveillance.
Il n'en est pas question. La Grande-Bretagne refuse absolument de traiter la France comme un pays sous mandat. Nos barons et les leurs étaient déjà en train d'en découdre, alors que chez vous, les tatars mangeaient encore de la viande de cheval qu'ils faisaient bouillir dans leur samovar. Et que chez vous, les Indiens se promenaient tout nus avec des plumes au derrière.
Moi, je n'aime pas les Français. J'invite votre De Gaulle à venir me voir à Alger. Monsieur décline. Et avant la guerre, j'ai reçu des émissaires de 4 gouvernements successifs en une semaine.
Ouais, ça c'est la République. Mais les Français, moi, j'aime. Je ne fais pas mystère de ce que je leur ai proposé, une nationalité commune, franco-britannique, comme à vous-même, mon cher président. Mais il ne s'agit pas, une fois de plus, de ce que nous aimons.
Il s'agit de la Pologne des Anglais. Vous voyez loin, monsieur le Premier ministre, vous voyez très loin, et vos inquiétudes sont légitimes. Je ne mets pas d'objection à ce que vous donniez une voix à la France dans l'organisation de l'Allemagne. Après tout, De Gaulle a eu assez d'imagination pour initier mon ami Maurice Thorez.
Bon, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, mon cher Winston, pour la couture et les parfums, les Froggies sont tout de même assez doués. Hein. Disons qu'ils ont mérité leur zone et leur voix. Vous savez, maréchal, que Winston a 100 idées par jour, dont 4 généralement bonnes.
Ah, un détail. Vous parliez, monsieur le Premier ministre, de 2 millions de traîtres. Certains ont porté l'uniforme allemand. D'autres, des femmes et des enfants en particulier, ont trahi simplement en quittant le territoire national. Il est bien entendu, n'est-ce pas, que vous nous les renvoyez tous sans exception pour que nous nous expliquions avec eux.
Ouais, j'ai entendu.
Ben, sauf s'ils refusent, je suppose. Il y a tout de même la Convention de Genève.
Je vous parle de la Convention de Yalta. Si, par la même occasion, vous pouviez remettre la main sur quelques vieux généraux tsaristes, ne les laissez pas traîner.
Bon, je n'ai aucune sympathie pour les généraux tsaristes. Mais certains peuvent avoir pris d'autres nationalités. Et techniquement parlant, aucun d'entre eux, j'imagine, n'a été citoyen soviétique.
Vous voilà encore avec vos subtilités. Je vous le demande comme un service d'amis.
Fais pas d'omelette sans casser deux. Vous gérez votre monde.
Il faut tout de même prévoir que quelques-uns pourraient demander l'asile politique.
Oui, monsieur le président, il faut le prévoir. Et par conséquent, devenir temporairement aveugle et sourd. Nous sommes en train de construire notre propre sécurité. Pouvons-nous refuser un service d'amis ?
Ben, c'est ce que j'ai toujours dit. Si vous voulez des amis, soyons un vous-même.
Eh bien, vous ayant fait ce plaisir au sujet de votre empare, je pense qu'il est temps de parler du mien.
Oui, certainement. Je vous demande pardon, maréchal. Je me sens soudain très fatigué. Très fatigué. Et puisque vous m'avez fait l'honneur de me laisser présider cette séance, je prends la liberté de la journée.
Noir. Quand la lumière revient, elle est focalisée sur le hamas dans lequel dort Churchill. Dors, mon petit Winston. Dors, mon petit fanfan. De l'orage qui tonne, toi, tu me défends. Moi, guerrière teutonne, tu m'as repoussé. De tes mains gloutonnes, tu m'as fracassé. Tu cognes, tu bâtonnes, mais tu ne tues point. Bien que ça m'étonne, je ne t'en aime pas moins. Pour toi, je chantonne, Je te trouve très bon. Dors, mon petit Winston. Dors, mon petit poupon.
Bon remerciement, bon remerciement. Je m'assurerai de demander des choses. Le mot est une bête blessée. Faut bien que nous léchions les plaies les uns des autres. Leur puni, après tout, c'était pas une mauvaise idée. Et quel empire est-il sans Deutschland?
Je t'aime, Churchill. J'aime tes cigares, Churchill. J'aime ton cognac, Churchill. J'aime tes galures, Churchill. J'aime ton bide, Churchill. J'aime que tu aies été hussard avant d'être Premier ministre. J'aime que tu sois un homme heureux.
Ah, il n'y a pas à dire. Il n'y a que les mangeuses de grenouilles pour embrasser aussi bien. Qui es-tu, toi? Pourquoi ne dis-tu rien? Qui es-tu? Je veux pas toi. Va-t'en! Je veux les autres. Je veux Françoise et Gretchen. Elles sont gentilles. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pas dû rêver. Bouffer trop de caviar. Pourtant, ma digestion, en général, je peux pas me plaindre.
Mais parle. Parle.
Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me veux? Je fais de mon mieux. Je peux pas m'en demander plus.
Il y aura une plaine et des hommes en armes. Beaucoup d'hommes en armes, sous des tentes pointues. Et tu leur diras, « Rendez-moi vos armes. » Ils te les rendront parce qu'ils te croiront. Tous ces hommes sans armes, ils auront des chefs. Et tu leur diras, « Prêtez-moi vos chefs. » Ils te les prêteront parce qu'ils te croiront. Et leurs chefs crédules, tu les ligoteras. Tu les ligoteras, tu les garrotteras, et à leurs ennemis tu les livreras, et par cent, par mille, on les fusillera. Il y aura une plaine, et des tentes pointues, et des hommes sans armes, et des hommes sans chef, et tu leur diras, « Je vous trahirai, à vos pires ennemis je vous livrerai. » Il se fera alors un silence profond, le silence profond d'une nation livrée. Et les hommes sans armes iront voir leurs prêtres. Ce n'est pas nouveau, leur diront leurs prêtres. Et ils endosseront leurs chasubles d'or. Un calvaire de plus, ce n'est pas nouveau. Et ils balanceront leurs encensoirs d'or. Un martyr de plus, ce n'est pas nouveau. Et ils feront couler pour la millième fois dans leur calice d'or le doux sang du Christ. Les Cosaques sans armes se mettront en rang. Sous le ciel d'été, ils chanteront la messe. Puis une dernière fois, ils chanteront ensemble leur chanson cosaque, leur chanson d'hommes libres. Tes camions viendront et tes hommes en armes. Tu diras, c'est l'heure, embarquez. Les Cosaques alors se jetteront par terre. À leurs bras se noueront si fort. Dans la terre, leurs pieds s'imprimeront si fort que leurs corps unis ne feront plus qu'un corps, que leur chair commune ne fera plus qu'un mur. Tu diras alors à tes hommes en armes, coupez-moi ces chaînes de bras et de jambes, tranchez-moi ces liens de muscles et d'os, quel tracas ces hommes qui ne veulent pas bouger. Tes soldats, alors, aux joues blondes et roses, pleins d'une rage sauvage, oubliant leur mère et leur fiancée. Tes soldats partis faire une juste guerre sur ces hommes sans armes abattront leurs crosses. De leurs baïonnettes leur piqueront la chair. Ils briseront le mur fraternel. Ils casseront les bras et les jambes. Sépareront les frères, les fils et les pères, les femmes, les copains et les petits-enfants. Tous ces corps rompus, tous ces crânes ouverts, on les entassera dans tes camions prêts. On les conduira, en faisant bonne garde, jusqu'à leurs ennemis qui les attendront en croquant des graines de tournesol secs. Et tu déverseras toute cette viande vivante à leurs pieds bottés, à leurs pieds cloutés. Acceptez, mes braves, ce petit cadeau. Vous voilà, fumier, diront tes amis. Débarquez, fumier, qu'on rigole un brin. Vos carcasses fumiers sont maintenant à nous. Mais sur le parcours, il y aura un pont. Sous le pont coulera un torrent pierreux. En passant, une femme, dans l'un des camions, sur les corps tassés, se dressera soudain. Ses deux bras lèveront son enfant au ciel. Ses deux bras jetteront son enfant dans l'eau. Puis dans l'eau, elle-même se jettera aussi. Cette chanceuse-là, monsieur Churchill, ce sera moi. Noir. La scène s'éclaire. Les trois personnages sont assis autour d'une table. Une table couverte de plats et de bouteilles.
Reprenez du caviar.
Et tout ça, c'est mangé, non ?
Ne vous gênez pas. J'en ai fait livrer 3 wagons, cela fait 16 tonnes. Approximativement.
Pas pour ça.
Nous autres Américains, nous aimons le poulet frit. Vous, les Soviétiques, c'est le caviar.
Ah ben, il n'y a pas que les Soviétiques.
Oui, remarquez qu'il y a des goûts différents. Certains préfèrent le caviar grenu, comme celui-ci. D'autres, le caviar compact, comme celui-là, qui est pourtant moins recherché. Ces deux espèces se mangent fraîches. Mais il y a aussi le caviar salé, qui n'est pas mauvais non plus. Personnellement, je ne crache pas sur le caviar rouge. Ce sont mes goûts de mougique qui ressortent.
Le caviar rouge, n'est-ce pas, vient du mulet gris ou de la carpe.
Pas en Russie. Pour nous, le caviar rouge, ce sont des œufs de saumon. Celui-ci, par exemple, vient de Sibérie.
Ah ben, mougique ou pas, c'est diablement bon.
Oh, vous devriez en prendre les 4 espèces en même temps pour comparer.
Non, merci, je n'ai pas grand faim.
Bon, je vais laisser faire.
Si vous en désirez pour votre petit déjeuner, on peut vous en faire porter.
Bon, ben, pourquoi pas. Les snobs préfèrent le caviar iranien. Mais je dois dire que celui de vos poissons de russe et sturgeons et saumons diverses me paraît amplement suffisant.
Nos esturgeons et nos saumons sont fiers de servir un descendant de la noble lignée des Marlborough.
Monsieur le Président, votre constitution affirme que tous les hommes naissent égaux, c'est possible, mais ça n'est sûrement pas vrai des animaux. Songez que la plus cochonne chinoise des poules ne pondra jamais que des œufs, et que la femelle du plus vulgaire esturgeon produit cette splendeur. Je vais en reprendre.
Moi, je trouve que les œufs de poule ont du bon.
Et au moins, personne ne pourra me reprocher d'avoir perdu mon temps, Yalta.
Je voudrais porter un toast au parti conservateur de Grande-Bretagne.
Je vous remercie. Je bois au mash populaire et prolétaire du monde entier.
Je bois à 100 ans de paix. Je boirais bien une paix éternelle, mais Winston trouve que c'est trop long.
Vous et moi, Monsieur le Président, nous nous comprenons, mais je voudrais aussi pouvoir appeler Monsieur le Premier Ministre mon ami.
Mais appelez-moi Winston. Je vous appelle bien à Joe quand j'ai le dos tourné. Messieurs. Au roi.
La poliomyélite a ceci de bon qu'elle dispense les démocrates de se lever.
D'une manière générale, je n'aime pas les rois, mais je boirai au vôtre parce qu'il a bien su choisir son premier ministre.
Et à ce propos, maréchal, savez-vous que l'armée rouge devrait me donner sa plus haute décoration ?
Pourquoi ?
Ben, c'est moi qui vous ai appris à vous battre. Du temps que je soutenais toutes mes forces les armées blanches, je suis tout de même arrivé jusqu'à Toulon et Archangelsk, nous vous avons taillé des croupières.
Pourquoi n'y êtes-vous pas resté ?
Parce que vous étiez de bons élèves, et qu'ensuite vous avez flanqué raclée sur raclée. Ça ne fait rien. Je sens et je vous pardonne de plus en plus à
proportion les Allemands que vous liquidez.
Mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir si les Soviétiques, eux, vous pardonnent.
Et à proportion des chars que je leur livre.
Là, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, peut-être pourrions-nous reprendre nos travaux. Il y a trois rois qui veulent me voir dès que j'en aurai fini ici. Et la bourgeoise s'impatiente. Encore 4 télégrammes aujourd'hui. Fais ceci, ne fais pas ça, pense bien à tout.
Vous êtes le président de la conférence.
Eh bien, d'accord. Mes chers amis, je propose que nous parlions du problème qui risque de se révéler le plus épineux et le plus complexe et le plus irritant, la Pologne. Si je connais bien mon histoire, les Polonais n'ont jamais eu de gouvernement viable. Et ceux d'entre eux que nous voyons tous les jours, si admirables qu'ils soient de courage et d'intégrité, ne m'ont pas l'air beaucoup plus doués que leurs ancêtres du point de vue politique.
Il y a des gens bien parmi les Polonais.
Oui, il y a eu Chopin, je sais. Et l'autre qui a écrit ce roman dont on a tiré un film, comment ça s'appelait là, Covadis. Oui, tout cela ne fait pas un gouvernement. Ces gens revendiquent, et ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord entre eux. Dans leur propre intérêt, je propose donc que nous trois, qui avons les pieds sur terre, nous leur mâchions un peu la besogne. Il y a des nageurs qu'il faut jeter dans la piscine et qu'ils se débrouillent très bien après. Hein. J'ai vu ça à Warm Springs. J'y vais pour me soigner, vous savez, et je me baigne carrément avec tout le monde.
Oui, ils ont dit à des cavaliers qui vont pousser au cul pour qu'ils montent à cheval.
L'Amérique souhaiterait que la Pologne soit démocratique, indépendante et forte.
La Grande-Bretagne désirait que la Pologne fût indépendante, forte et démocratique.
La Russie veut une Pologne forte, démocratique, indépendante.
Ben alors les garçons, nous sommes tous d'accord, hein ?
Ah, monsieur le Président, il y a tout de même des nuances. Nous avons, vous et moi, reconnu depuis longtemps un gouvernement constitué de Polonais vivant en exil à Londres. Ces hommes n'ont cessé de nous chercher des poux dans la paille, c'est vrai, mais ils se sont battus à nos côtés avec une fidélité et une vaillance exemplaires. De son côté, monsieur le Maréchal l'a jugé bon de reconnaître officiellement, il y a à peine un mois, un ramassis d'aventuriers qui représentent tout au plus la résistance anti-nazie et pro-communiste de la région de Lublin, mais qui ont la prétention de gouverner toute la Pologne. Il nous est impossible de souscrire à cette reconnaissance. Dois-je, Maréchal, la qualifier d'intempestive ou au contraire admirer votre synchronisation ? Et d'abandonner nos amis, si exigeants, si pointilleux, si casse-machin, s'il faut tout dire qu'il soit montré.
Si nous réglions d'abord la question territoriale, ce sera peut-être plus facile.
Je vous l'ai dit à Téhéran, si Königsberg devient une ville russe, j'accepte que la ligne Curzon redevienne la frontière orientale de la Pologne.
La ligne Curzon ?
C'est ce que nous avions décidé.
Ah ben, l'Union soviétique a libéré la Pologne et... Il est compréhensible qu'elle veuille se payer un peu sur son territoire.
D'autant plus que la Pologne récupérera à l'ouest sur l'Allemagne ce qu'elle aura perdu à l'est au profit de la Russie.
Enfin, tout cela n'est pas très conforme à la charte de l'Atlantique. Mais enfin, soyons réalistes. Vous avez droit à la ligne Curzon. D'accord. Cependant, le droit est une chose. La générosité en est une autre. Moi, j'ai 7 millions d'électeurs polonais qui seraient enchantés de voir l'Union soviétique faire un geste de grand seigneur. Et je vous serais personnellement reconnaissant, mon cher maréchal, si vous acceptiez de faire glisser la ligne Curzon un tout petit peu vers l'est. Oh, pas sur toute la longueur, seulement dans la région de Lvov. Ville polonaise, il en fut, n'est-ce pas ?
Lvov, c'est la Galicie.
Ben, c'est très possible, oui.
En Galicie, il y a du pétrole.
Ben, comprenez-moi, je ne vous en fais pas une obligation, mais moi je suis responsable devant les Américains d'extraction polonaise.
Et moi, je suis responsable devant les Ukrainiens.
Je connais votre générosité naturelle, Joe. Noblesse oblige, et tout le tremblement. Je ne vous demande qu'un geste.
La ligne Curzon a été établie par un Anglais, Curzon, et un Français, Clémenceau. Puis-je me présenter devant le peuple russe et lui dire que je suis moins russe qu'un Français et un Anglais ?
Un geste ?
Je l'ai déjà fait, votre geste. J'ai accordé la ligne Curzon. Lénine ne serait jamais allé jusque-là.
Monsieur le Président, je voulais déjà faire marquer, avec toute la déférence que doit un chef d'État à un simple chef de gouvernement, nous sommes en présence d'une situation de fait. L'armée rouge est en Pologne. Elle s'y bat, elle y campe, elle y fait la cuisine, elle creuse ses feuillets. C'est quelque chose, ça, les feuillets. Dans la terre polonaise. Ni vous ni moi ne pouvons plus rien échanger. Cela posé, je voudrais remarquer à monsieur le maréchal que pour la Grande-Bretagne, la question polonaise n'est pas une question ordinaire, c'est une question d'honneur. C'est pour défendre la Pologne contre Hitler que nous avons tiré l'épée et nous avons l'intention de ne pas la remettre au fourreau tant que la Pologne ne sera pas redevenue maîtresse chez elle et capitaine de son âme, si vous comprenez ce que cela veut dire. La Grande-Bretagne n'a pas d'intérêt matériel dans la question polonaise, elle est intéressée d'honneur. C'est pourquoi je considère qu'il est indispensable que nous créions ici même un gouvernement polonais indépendant.
Et démocratique.
Et fort, nous l'avons déjà dit. Je m'étonne cependant que le Premier ministre de l'Angleterre se propose de créer un gouvernement polonais. J'aurais cru que c'était là le privilège du peuple polonais. Moi, que tout le monde fait passer pour un dictateur, je ne me permettrai pas d'enfreindre à ce point la souveraineté d'un pays étranger. Mais sans doute le Premier ministre n'a-t-il commis qu'un, comment dites-vous cela, un lapsus. Quant à ces considérations sur l'honneur, nous les comprenons d'autant mieux que nous sommes pour notre part anxieux d'expier les torts historiques de la Russie. Pour nous aussi, la Pologne, c'est une question d'honneur. D'honneur et de sécurité. Or, cette sécurité ne nous est pas assurée par les Polonais de Londres. J'ai des renseignements. Les émigrés entretiennent dans le dos de l'armée rouge des maquis nationalistes qui ne cessent de nous harceler. 212 soldats et officiers russes ont déjà été assassinés par des Polonais alors qu'ils se battaient pour la libération de la Pologne.
Inconcevable. Nous avons tout autre renseignement.
Je ne doute pas que vous n'ayez des espions un peu partout, mais comme vous l'avez remarqué, nous autres, nous nous trouvons sur place.
Ces espions, comme vous les appelez, nous signalent entre autres que votre comité de libération de Dublin a l'intention de fusiller comme traîtres tous les officiers émigrés.
Le comité de libération de Dublin, comme vous l'appelez, a été reconnu en tant que gouvernement par la Russie.
Ce n'est pas un gouvernement élu.
Pas plus que celui de votre ami de Gaulle.
Mais voyez-vous, mon cher maréchal, les fusillades de Vézé polonais, il y en a qui... Il y a des précédents un peu malheureux. On a tout de même retrouvé 4500 dans le charnier de Katyn. Cet incident ne nous rappelle rien.
Les Polonais sont un peuple malchanceux. Leur gouvernement de Londres était présidé par un nommé Sikorski, plus exigeant à votre égard que ses confrères. Il est mort dans un accident d'avion. Cet accident ne vous rappelle rien ?
Et l'insurrection de Varsovie. Ce peuple s'est soulevé de lui-même contre l'armée allemande qui n'avait jamais été si puissante et qui, folle de rage, a dû pilonner la ville pendant 63 jours avant d'écraser enfin la résistance de ses civils, de ses amateurs aux mains nues. Où étiez-vous à ce moment-là? À peine à plus d'une portée de canon de Varsovie, et qu'avez-vous fait? Rien. Doit-on croire que vous n'étiez pas capable de voler au secours de ces héros ou que vous trouviez plus avisé de faire massacrer 230 000 patriotes avant de faire libérer leur capitale par vos troupes.
Je vous retourne le compliment. Il faudra un jour ou l'autre savoir la vérité sur la poignée de criminels et d'ambitieux qui ont déclenché l'aventure insensée de Varsovie. En jouant sur la crédulité des habitants, ils les ont lancés, les mains nues, comme vous dites, contre l'artillerie, l'aviation et les chars allemands. Quant à nous, nous avons parachuté des munitions et de l'approvisionnement. Il était trop tard.
Mes amis, ces accusations mutuelles, cette méfiance digne d'un outrage ne nous conduiront nulle part. Oubliez-vous que nous sommes réunis ici pour fonder l'histoire sur des bases nouvelles, des bases de fraternité, de compréhension et de justice. À quoi se résume le problème? Nous sommes tous d'accord pour que la Pologne de l'avenir soit démocratique.
Indépendante
et forte.
Alors, voyons, hein? Nous avons deux gouvernements polonais en présence, il n'y a qu'à les faire départager par le peuple au moyen d'élections libres.
Qui organisera ces élections?
Un gouvernement provisoire.
Qui existe déjà à Londres.
Qui a été formé à Lublin.
Mais pas du tout, mes amis, votre entêtement à tous les deux nous fait perdre notre temps. Nous avons besoin, avouons-le, d'un bol d'air frais dans cette politique européenne qui semble refermée. Il n'y a qu'à former un gouvernement mixte, dont les gens de Londres fourniraient la base et dans lequel entreraient aussi les gens de Lublin.
Je suis d'accord pour que le gouvernement actuel de la Pologne forme un gouvernement d'union nationale dans lequel seront admis un ou deux émigrés.
Vous voyez que nous arrivons presque déjà à nous entendre. Ce n'est plus qu'une question de formulation. Il n'y a pas un problème au monde qui peut être résolu par trois hommes de bonne volonté réunis autour d'une table. Rassemblons nos Polonais et qu'ils s'arrangent entre eux.
Où? Quand?
Ben ici, à Yalta, maintenant, là.
Londres accepte.
Mais Lublin aussi, je pense. Je vais tout de suite donner des ordres pour qu'on envoie ici des délégués de Lublin.
Staline va au téléphone Mural et parle bas.
Ne vous l'avais-je pas dit, Winston? Les temps de la mesquine diplomatie traditionnelle sont révolus. De nos jours, il faut savoir donner pour recevoir. Moi aussi, je suis un lutteur et je sais encaisser les coups de poing et en donner quand il faut. Mais quand ce n'est pas nécessaire...
On les cherche.
On va les trouver.
Sûrement.
Quand?
Ça, je ne sais pas.
Ben, c'est une question d'heure.
Ou de jour, ce sont des hommes très occupés. D'ailleurs, nous respectons leur indépendance. Nous ne pouvons pas convoquer des ministres polonais comme si c'était des soldats de l'armée rouge.
Ben, c'est ennuyeux. Moi, je ne peux pas rester beaucoup plus longtemps. Il y a trois rois qui m'attendent.
Nous sommes d'accord pour la création d'un gouvernement provisoire mixte. La composition sera déterminée quand vous aurez retrouvé vos Polonais volants. Nous sommes d'accord pour des élections libres en Pologne. Le gouvernement qui sera élu dans ces conditions remplacera celui de Lublin et celui de Londres.
Le gouvernement provisoire sera étendu et il comprendra des membres émigrés. Ce gouvernement d'union nationale organisera des élections libres. Quand un nouveau gouvernement aura été élu, vous cesserez de reconnaître celui de Londres.
Ben naturellement.
Ben oui.
Les biens, meubles et immeubles et les divers investissements du gouvernement polonais de Londres
reviendront au nouveau gouvernement.
Je n'aime pas le terme émigré, il évoque des aigrefins chassés par leur peuple. Ce n'est pas certainement le cas de nos Polonais. On pourrait dire que ce gouvernement comprendra des membres qui se trouvent temporairement à l'étranger.
Je suis d'accord.
Et au lieu de gouvernement provisoire, on dirait gouvernement actuellement en exercice, non?
Je suis d'accord.
Formulation, tout est dans la formulation, vous voyez, comme nous avons déjà avancé. Il ne nous reste plus qu'à préciser un peu, en gros, comment auront lieu ces élections libres.
Voilà, chers auditeurs, nous savons aujourd'hui ce qu'il en a été de ces fameuses élections libres. Vous venez donc d'entendre la rediffusion d'une pièce pour la première fois donnée en l'an 2000, pièce de Vladimir Volkov, Yalta. Et je voudrais revenir une seconde. En fait, j'ai dit tout à l'heure que rien dans le contenu des accords ne laissait présager ou apparaître cette histoire de partage du monde qui sous-titre généralement le nom de Yalta. Or, Vladimir Volkov insiste bien entendu sur les tractations. Je pense donc qu'il s'agit tout simplement des clauses secrètes qui ne sont pas connues du grand public. Ma dernière information personnelle sur Yalta date du bouquin écrit par Arthur Comte, je pense qu'il y a au moins une quarantaine d'années, qui était très documenté, mais enfin qui peut-être maintenant est un petit peu plus... peut-être dépassé, les historiens ont davantage travaillé sur la chose. Voilà. Et en tout cas, Vladimir Volkov était bien placé pour savoir de quoi il retournait. Donc vous venez d'entendre la première partie, elle s'arrête un tout petit peu court, mais ne vous inquiétez pas, la prochaine fois, dans 4 semaines, je reprendrai un petit résumé de ce qui vient de se dire ce soir afin que tout le monde puisse suivre. Ceux qui ont écouté ce soir et ceux qui n'auront pas écouté la première partie. Voilà, nous nous retrouverons donc dans 4 semaines, c'est-à-dire très précisément le 2 mars à 21h30. Bonne soirée, merci d'être à l'écoute et je salue tous les amis du Théâtre des Déchargeurs, de la Cave à Poèmes et ceux du Théâtre du Nord-Ouest qui seraient à l'écoute. Bonne soirée.